Louis Bérubé a joué un rôle important dans le processus de modernisation de la pêche en Gaspésie au 20e siècle. Afin de le faire revivre dans nos mémoires, Gaétan Mire lui a consacré une biographie intitulée « Louis Bérubé, le renouveau de la pêche québécoise au 20e siècle ». J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du lancement de son livre, qui a eu lieu le 13 avril dernier. Bonjour, Monsieur Mire. Avant de commencer, pouvez-vous me présenter globalement, parce que vous faites le lancement du livre « Louis Bérubé, le renouveau de la pêche au 20e siècle ». Qui est ce Louis Bérubé?
Bon, Louis Bérubé, c'était à l'origine un agronome qui s'est spécialisé en pêche dans les années 20 et qui a travaillé à organiser les pêcheurs dans des coopératives. D'abord dans les années 20, et bon, ça, il y a eu un échec et ça a recommencé dans les années 30 à la Pocatière. Et ces syndicats-là, ces syndicats coopératifs ont été fédérés, ont été regroupés dans une fédération qui s'appelait Pêcheurs Unis du Québec, qui est devenue dans les années 70 à 80, jusqu'en 84, le leader de l'industrie de la pêche au Québec. C'était joué un rôle important de représentation des pêcheurs, de production et de commercialisation du poisson.
D'où vous est venu l'intérêt pour Louis Bérubé?
Bon, disons que j'ai une formation en pêche. J'étais formé à Grande-Rivière, puis j'ai été formé aussi en France, aussi dans un institut spécialisé. Et je connaissais l'existence de Louis Bérubé parce que c'est le fondateur de l'école des pêches de Grande-Rivière. C'était le premier directeur. Il était directeur pendant 10 ans. Et moi, je me suis toujours intéressé au développement de la formation ici au Québec, mais aussi en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et je cherchais, c'est toujours à la recherche de modèles de formation, comment on organise les formations. Et disons que le modèle de l'école des pêches de Grande-Rivière et le modèle de la Pocatière, c'est des modèles très intéressants qu'on peut utiliser ailleurs, à l'étranger.
On peut voir, parce que, bon... vos recherches ont commencé, comme vous l'avez dit pendant votre présentation, en 2014. Ça a été une très grosse recherche, beaucoup d'archives que vous avez regardées.
Oui, effectivement, mais il faut voir qu'au départ, j'avais une grande ambition, c'était de faire 3 livres. Et ça, c'est le premier. Ce qui est très important, c'est que les archives de Louis Bérubé, c'est quand même 16 mètres linéaires, c'est-à-dire 42 pieds. Je parle des documents imprimés. C'est assez important. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. En plus, il a laissé 5000 photos, dont des photos très, très anciennes, très rares de la Gaspésie. On en retrouve beaucoup dans le livre. Et en plus de ça, il a été journaliste, il a été vulgarisateur. Il a publié à peu près 200 articles et ouvrages. Donc, ça faisait une masse d'informations très importante. Mais Louis Bérubé, son intérêt, c'est qu'il a travaillé pendant 60 ans. Et il était un protagoniste de toutes les périodes où il y a eu du changement au 20e siècle dans la pêche. C'était une époque où la pêche s'est transformée. Hein? On est passé d'une pêche traditionnelle à une pêche scientifique. Et ces archives représentent tout ça. Quoi. Donc, c'est un intérêt très, très grand. Quoi.
Parmi les choses que vous avez présentées lors de votre présentation, c'est entre autres le mouvement de Sainte-Anne qui semble avoir pris beaucoup de place dans la vie de Louis Bérubé et qui a changé l'histoire de la pêche ici.
Disons que Louis Bérubé, c'est un des principaux protagonistes du ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de Sainte-Anne. C'est-à-dire, le mouvement de Sainte-Anne, c'est d'abord la création d'une école pour former, d'une faculté, hein, c'est une faculté de pêche qui était rattachée à l'Université Laval pour former du personnel cadre pour gérer l'industrie, hein, autant dans les entreprises privées, les coopératives qu'au gouvernement. Mais c'était aussi... il y avait un département qui s'appelait le service social économique et qui devait former des jeunes pêcheurs qui après leur formation ont commencé à créer des coopératives. Et ces coopératives-là, une fois qu'il y en a eu un certain nombre, on les regroupait dans une fédération qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Pêcheurs Unis du Québec. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement de Sainte-Anne. Et ça, c'est considéré par beaucoup de chercheurs aujourd'hui en histoire. Qui s'intéresse à la pêche comme un modèle qui peut être transposé même aujourd'hui. Ça peut inspirer même du développement qui se fait aujourd'hui. Il y a des groupes actuellement, il y a un groupe en particulier qui pense à relancer des coopératives en Gaspésie. Okay? Il y en a une qui a été créée l'an passé, il y en a une autre qui a été créée il y a 2-3 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est un terreau fertile, le Québec, pour les coopératives. Ça pourrait revenir. Moi, je ne me prononce pas nécessairement là-dessus, mais C'est pour dire que mon livre, ça a allumé un certain nombre de personnes qui y pensaient déjà. Ça les a justifiés. Ils ont organisé même un colloque à Rimouski auquel j'ai participé. Et c'est des choses qui se discutent. Donc, c'est comme si l'histoire revenait, quoi. Si on essayait de se servir du passé pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des solutions aux problèmes qu'on connaît actuellement dans la pêche. Bon, on verra.
Un autre élément aussi qu'on retrouve dans le livre, qui est important aussi, quoique tout est important, là, mais ce qui m'a fait ressortir ça, en fond, c'est lui le concepteur, puis vous l'avez dit tout à l'heure aussi, directeur de l'École des pêches.
Oui, c'est-à-dire que lui, il a trouvé vers 1945-46, je dirais, il a trouvé du financement pour créer une école de métiers. Il appelait ça les métiers de la pêche, donc c'est-à-dire les pêcheurs, les transformateurs, il y avait à l'époque les charpentiers de barges qui construisaient les barges, les forgerons, tout ça, les métiers qui existaient à l'époque dans la pêche. Et il a trouvé ce financement-là, puis il y a une loi qui était passée sous le régime libéral, donc la loi a autorisé la création de cette école-là. Lui, il voulait affilier cette école-là à l'école de la Pocatière. Mais le gouvernement a changé, et les choses ont changé, et le nouveau gouvernement, c'était l'Union nationale, ils ont décidé de mettre l'école ici à Garnivelle, puis ils ont recouru à ses services pour concevoir le fonctionnement de l'école, les programmes, la durée du, en fait, toute la pédagogie, tous les aspects pédagogiques, tous les aspects techniques aussi, hein, et tout ça, quoi. Donc, ça a été son rôle. Et puis, quand c'était créé, ils trouvaient personne. Alors, ils ont demandé de devenir le directeur. Il a été directeur pendant 10 ans, de 1948. L'école a ouvert officiellement au printemps de 1948. Il était là jusqu'en 1958. Donc, c'est une contribution très, très importante. Hein.
Donc, dans votre livre, on a ces deux événements-là que vous parlez. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre?
Bon, disons que Louis Bérubé, c'est une espèce de touche-à-tout. Il y a une constante, c'est-à-dire il travaille toujours dans la pêche, hein? Il travaille toujours en matière en développement. Il s'intéresse au développement des coopératives, il s'intéresse au développement de la recherche scientifique. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de rattraper les autres provinces, puis les États américains et tout ça, de moderniser la pêche pour qu'on puisse concurrencer correctement les autres juridictions, les provinces qui sont... Parce qu'on avait un retard, hein, on avait un retard technologique. Donc, c'était donc la recherche. Hein. La recherche, c'est ça qui alimente le développement. Et la formation, c'est très important. Et il n'y avait personne, donc ils ont formé d'abord à l'École supérieure des pêcheries un corps, ils appelaient ça des ingénieurs en pêcherie, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'était des gens qui avaient une formation universitaire de 4 ans et qui sont allés après travailler dans l'industrie à gérer des entreprises, des coopératives chez Pêcheurs Unis, il y a même qui ont parti des entreprises privées, il y a eu des sous-ministres, il y a eu des chercheurs, il y a eu des professeurs d'université, il y a eu des techniciens, il y a eu des gens qui géraient les services de statistiques. Vous savez, dans le développement, les statistiques, c'est fondamental, c'est très important. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, j'ai déjà pas mal déterminé quel impact avait eu l'école. Mon manuscrit est assez avancé. Mon but, c'était de savoir où sont allés ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, pendant combien de temps, et quel impact ça a eu sur la modernisation de l'industrie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça.
Dans le fond, on vient retracer, vous avez parlé, c'est 60 ans de carrière dans un milieu. On vient retracer, entre autres.
Il faut dire qu'en 1962, à partir de 1956, 58, pardon, il va commencer à faire l'international aussi. Et quand il va prendre sa retraite de l'Université Laval, parce que lui, il était rattaché à l'Université Laval, en 1962, là, il va faire de la coopération internationale. Faire de la coopération internationale, ça veut dire aller aider des pays en développement, défavorisés, à structurer leurs organisations, leurs entreprises et tout ça. Ça veut dire investir dans des infrastructures, des ports, des bateaux, etc. Vous comprenez? Donc, il a fait ça, surtout en Asie du Sud-Est. Et après, il est rentré à l'Agence canadienne de développement international, qui était le ministère fédéral qui s'occupait de ces questions-là. Et là, il y a eu un rôle important parce qu'il a aidé le Canada à définir ses orientations stratégiques en matière de développement de la coopération internationale dans ces pays-là, dans les pays pauvres, défavorisés, disons. Et puis à la fin, ben, il y a eu une période de bénévolat. Il a travaillé jusqu'à 82 ans où il aidait des organisations canadiennes qui venaient en aide directe à des populations défavorisées au Costa Rica, dans certains pays comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y avait, comme on dit en bon québécois, il avait slacké un peu là, parce qu'il était quand même assez âgé, mais quand même, il était assez actif. Il jouait un rôle de mentor. Il faisait des missions sur le terrain. Il faisait des levées de fonds, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça, sa carrière. Hein. C'est une carrière assez riche quand même, mais longue. Hein.
Et ce document-là qui retrace sa carrière est aussi garni de plusieurs photos que vous avez présentées d'ailleurs. On en retrouve combien dans ce livre-là?
Il y a 160 photos, 159, 160 photos, dont plusieurs proviennent de sa propre collection. Il a laissé 5000 photos, il a laissé 3500 photos en noir et blanc et 1500 diapos. Moi, j'en ai numérisé 1100. Et maintenant, le fonds a été déposé aux archives, dans un service d'archives. Et le livre contient beaucoup de photos très rares qui n'ont jamais été présentées dans aucun ouvrage parce que c'est un fonds privé. Jusqu'à très récemment, c'était le fonds privé, ça appartenait à ses descendants.
Pendant votre présentation, vous avez mentionné, là, si je vous cite bien, rétablir la vérité à partir de faits. Est-ce que c'est parce que ce personnage est méconnu dans la région, malgré l'importance qu'il a?
Bien sûr. Oui, c'est une histoire qui est méconnue. Quoi. Ben, c'est sûr que les gens de la pêche qui ont eu des postes assez importants savent qui est Weber Ribé. Mais il n'y a personne jusqu'à maintenant qui avait fait sa biographie. D'ailleurs, personne ne savait qu'il y avait un fonds aussi riche, aussi important qui était disponible. Et c'était un peu... moi, je vous dis, j'étais un peu comme un ours dans un champ de bleuets. Hein. J'étais chalivé là, ça n'avait jamais été traité. C'était quelque chose d'absolument formidable à étudier. C'était nouveau. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de lancements, beaucoup de conférences depuis le mois de juin dernier parce que il faut absolument que je le fasse connaître. Donc, il faut que j'en parle au plus de gens possible. Il faut que je rencontre des médias comme vous. Donc, ça fait partie un peu... C'est pas comme un roman. Bon, on fait un roman, puis on le met en vente dans les librairies. Puis là, il faut vraiment... Il y a un travail de service après-vente, on peut dire, à faire, hein, quand même, c'est important.
J'ai dit que... Est-ce qu'il est méconnu? Mais dans le fond, comme l'a dit quelqu'un dans l'assistance... Il semble avoir été carrément oublié. Il faisait référence aux 50 ans puis aux 75 ans de 75 qui ont été fêtés l'an passé dans le Code des pêches. Il n'a pas été mentionné, donc c'est pour ramener ça dans la mémoire.
Non plus. J'ai été associé 40 ans à l'École des pêches de Grande-Rivière. J'étais pas là non plus. C'est pour vous dire que la mémoire des gens est courte et puis que bon, il y a aussi l'idée que on travaille quelque part longtemps. Des fois, on a fait notre marque et puis on quitte. Et puis, bon, il y a de nouvelles équipes. Moi, si j'allais à l'EPAC aujourd'hui, je ne connais plus personne. Ça fait plusieurs... J'ai quitté en 2007. C'est comme ça. On oublie rapidement aujourd'hui parce que d'abord, il se passe beaucoup de choses. Puis, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est pas...
On a fait une belle présentation du livre. C'est quoi vos projets futurs?
OK. Comme je vous disais tantôt, il y avait trois projets au départ. Okay? Quand j'ai vu l'ampleur, j'ai vu trois projets comme ça. Mais évidemment, en plus qu'on fouille, ça change les choses un peu, mais il reste que je suis resté assez fidèle à l'idée de faire maintenant, et d'ailleurs j'ai commencé le manuscrit très avancé, c'est l'histoire de l'École supérieure des pêcheries, parce que je voulais savoir de façon précise quel impact ça avait eu sur le développement de la pêche dans cette période très riche. Il y a eu beaucoup de changements. Et quel rôle a joué par rapport aux universités et d'autres facultés qui étaient tout ça. Et ça, cette partie est terminée. Et ce qui reste aussi à faire, c'est d'étudier plus à fond le rôle du service social économique sur le groupe, le département à l'intérieur de l'école qui s'occupait de convaincre les pêcheurs de se regrouper en coopérative. Ça reste à faire. Ça aussi, ça suscite beaucoup d'intérêt sur la côte parce que là où il y avait des coopératives, il y a encore des souvenirs chez des gens de nos générations, de leurs pères qui sont allés à l'école dans ce cadre-là, à la Pocatière, qui ont suivi des cours et tout ça. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent « As-tu des photos de mon père? » Des fois, j'en trouve. Parce qu'il y avait des journaux, il y avait des archives là-dessus. Quoi. C'est ça. C'est l'histoire qui se fait, hein, qui se Je crois que les gens sont très attachés à ces souvenirs-là. Hein. C'est, ça dépend des gens. C'est chacun ses goûts, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Quoi.
Bien, Gaëtan Mir, bonne chance pour la suite des choses et merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie vraiment. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci.